Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce lundi 11 février, coup de chaud et sueur froide, la grippe sévit. On approche du pic de l'épidémie. Le ministère de la Santé lance une alerte sanitaire. Quelques conseils à suivre. Les auto-écoles jouent les escargots dans les grandes villes de France. Elles protestent contre une réforme de leur secteur qui doit faire baisser le prix du permis. Dans RTL Midi aussi, 80% des Français souhaitent la prise en compte du vote blanc. C'est ce qui ressort du grand débat dans un sondage BVA pour RTL et Orange. Armes démocratiques ou bombes à retardement, décryptage à suivre. Des pions qui donnent des cours avant de devenir enseignants, c'est l'une des mesures de la loi Blanquer pour réformer l'éducation. À consommer de préférence avant ou à consommer jusqu'au. Les dates de péremption sont-elles dépassées? Des associations proposent de repousser d'une journée la date limite de consommation pour diminuer le gaspillage alimentaire. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Le soleil est à consommer sans modération.
Et en plus, on va se régaler cette semaine avec l'anticyclone qui va revenir progressivement par l'ouest du pays. Encore un petit peu de patience. Ça reste assez nuageux cet après-midi, en particulier entre le nord-est, le massif central et les Pyrénées, avec encore quelques averses, encore de la neige en montagne et encore de fortes rafales de vent sur les Alpes et près de la Méditerranée. Mais là, le ciel est bien dégagé. Les températures pour cet après-midi, de 5 à 16 degrés, 5 à Besançon, 8 à Lyon et Lille, 10 degrés à Paris et Montélimar et 16 degrés à Nice.
La question du jour sur RTL.fr à propos du grand débat. Emmanuel Macron est-il en campagne pour les élections européennes? Vous dites oui à 57%, 38% de non. On attend vos appels au 32-10. Vos réactions aussi sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Vous savez que les yaourts, on peut les manger 3 ou 5 jours après.
Hein. Ben ça fait
20 ans,
oui,
20 ans que j'en mange et j'ai jamais eu un souci. En tout cas, ça sera une des questions, date limite de consommation. Est-ce que vous y retrouvez François Berléand? Est-ce que vous partagez d'abord son avis? Est-ce que vous trouvez que c'est courageux ce qu'il a dit? J'ose pas le répéter parce que c'est pas très correct, puis tout le monde l'a entendu maintenant. Ils me font vraiment les gilets jaunes. Partagez-vous donc son point de vue. Et puis, faut-il reconnaître le vote blanc? Excellente question. Si vous voulez parler rugby également, c'est une catastrophe le rugby. A tout à l'heure. 32-10.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, un homme s'est-il fait la belle avec le magot qu'il était censé protéger des voleurs? Un convoyeur de fonds a disparu ce matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis avec un fourgon rempli de billets. Le montant du préjudice est estimé à 1 million d'euros, Raphaël Vantard.
Il est un peu plus de 8 heures ce matin en plein centre d'Aubervilliers. Les trois convoyeurs de fonds de la société Loomis viennent de prendre leur service. Ils s'arrêtent une première fois dans un commerce du centre-ville. Deux agents armés descendent du fourgon blindé. Le chauffeur, comme le veut la procédure, reste au volant, moteur tournant. Mais lorsque les deux convoyeurs sortent du magasin, le fourgon a disparu. Il est retrouvé par les policiers une rue plus loin devant un immeuble en construction. Le chauffeur a disparu. Il reste des fonds dans le véhicule. Mais vous le disiez, il manque 1 million d'euros. Le chauffeur du fourgon s'est-il fait la belle avec ce million d'euros? C'est l'une des hypothèses privilégiées par la brigade de répression du banditisme, la BRB, qui est en charge de l'enquête. Ce convoyeur de fonds est évidemment activement recherché. Rien pour l'instant ne semble indiquer qu'il aurait pu lui-même être victime d'un braquage.
Raphaël Vantard à Aubervilliers pour RTL. Et puis on se souvient aussi de Tony Musulin en 2009, ce convoyeur de fonds qui était parti, lui, avec plus de 11 millions d'euros. La fièvre monte au cœur de l'hiver, la grippe touche tout le territoire et le pic n'est pas encore atteint, mais le ministère de la Santé lance ce matin une alerte sanitaire en nous rappelant, Virginie Garin, quelques gestes simples mais indispensables.
Voilà, il faut absolument penser aux gestes barrières pour empêcher le virus de circuler. Donc si vous êtes malade, toussez dans votre coude et pas dans votre main. C'est par les mains qu'on pose partout qu'on transmet le virus. Portez un masque, jetez systématiquement votre mouchoir à la poubelle, ne pas le remettre dans votre poche. Et puis pour tout le monde, se laver les mains le plus souvent possible. Alors autre conseil pour les personnes fragiles, si ce n'est pas encore fait, il est encore temps de se vacciner. Il faut 15 jours pour que le vaccin immunise et le pic de la grippe devrait être justement dans 15 jours. Ce sont donc les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou les insuffisants cardiaques. La grippe a déjà provoqué plus de 1000 décès cet hiver. Rappelons que l'an dernier, elle avait fait 13 000 morts dans notre pays. Elle était particulièrement forte. Alors cette année, le virus s'est propagé doucement au début et puis l'épidémie s'est accélérée. Il semble assez contagieux, d'où cette alerte à la mobilisation lancée par le ministère ce matin.
Ah, merci Virginie. L'ultra-gauche était à la la manœuvre samedi à Paris. Déclaration ce matin de Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur. Il réaffirme que les manifestations qui dégénèrent sont en partie la conséquence d'un noyautage d'ultra, ultra-gauche et ultra-droite, suivi, dit-il, par des gilets jaunes radicalisés. Beaucoup de mobilier urbain et de distributeurs de banques ont été cassés à Paris. Une dizaine de véhicules incendiés, notamment une voiture de la mission antiterroriste Sentinelle au pied de la Tour Eiffel. Le grand débat à mi-parcours. Aujourd'hui, Emmanuel Macron prend le pouls des syndicats agricoles. Il reçoit un à un leurs représentants cet après-midi. Mais que veulent exactement les Français? Eh bien, 80%, ils réclament la prise en compte du vote blanc. C'est ce qui ressort d'un sondage BVA réalisé pour RTL et Orange. Nous avons donc décidé d'approfondir cette question et de peser les pour et les contre. Nous sommes avec Philippe Moreau-Chevrolet, politologue, président de MCBG Conseil. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, on va faire un peu de pédagogie. Quelle est la différence entre un vote blanc et un vote nul?
Alors, un vote blanc, c'est quand vous avez une enveloppe vide qui est mise dans l'urne, ou un bulletin blanc. Donc, vraiment un bulletin blanc. Ça, c'est considéré comme un vote blanc. Par contre, si vous avez un bulletin qui est raturé, déchiré, etc., ça, c'est un vote nul.
Ça n'a évidemment pas du tout la même signification.
Alors, au regard de la loi, pour l'instant, si, c'est comptabilisé nul ou blanc, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous mettiez votre bulletin à la poubelle. C'est tout l'enjeu du débat. Mais en théorie, le vote blanc est depuis de nombreuses années maintenant fait l'objet d'ailleurs de propositions de loi régulières pour qu'il soit reconnu et pour qu'il devienne une façon de voter finalement.
Voilà. Alors, on peut parler de la loi du 21 février 2014 qui permet de prendre en compte ce vote blanc. Mais de quelle manière ?
Il est pris en compte. Mais en fait, il n'est pas comptabilisé. Enfin, ça ne change pas les règles d'obtention de la majorité. Ça ne change pas ce qu'on appelle les suffrages exprimés.
Oui, n'est pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Et c'est ce qui change tout, au fond.
Oui, parce que...
Il n'existe pas vraiment, ce vote blanc.
Non, il y a une joute verbale qui a eu lieu entre Edoui Plenel et le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'une interview, qui était... Edoui Plenel disait, mais vous avez été élu par 18% des inscrits au premier tour. Et Macron disait, mais vous êtes le seul à utiliser ce terme de 18% des inscrits, alors que j'ai été élu par 24% des suffrages exprimés. Mmh. Voilà, c'est tout l'enjeu, c'est de savoir quelle légitimité a un élu. Mmh. Les députés, par exemple, en moyenne, ils ont eu 22,4% des inscrits. Ça veut dire qu'en gros, les gens inscrits sur les listes électorales, et déjà, il faut comprendre que tous les Français ne sont pas inscrits sur les listes électorales, beaucoup ne savent pas comment s'inscrire, ou ne savent même pas qu'ils peuvent s'inscrire. Et il n'a eu que 22% des gens qui étaient inscrits. Donc c'est vrai qu'un député, c'est pas beaucoup d'être élu par un cinquième de la population.
Soyons concrets. Un quart. Quels seraient les avantages de cette prise en compte du vote blanc ?
Alors, c'est une bombe à retardement, le vote blanc. Les avantages, c'est que ça rendrait vraiment compte de la situation politique actuelle, qui est qu'une large majorité de Français, en 2017, a enregistré un record absolu de blancs et nuls. Là, c'était 4 millions.
8,5%, c'est énorme.
C'est énorme.
Et ça monte depuis les années 80.
En fait, il y a un refus des électeurs de départager entre des choix dans lesquels ils ne croient pas. La réalité triste, et vraiment c'est triste surtout, de la politique de notre pays, c'est que les Français ne se reconnaissent plus dans les choix qu'on leur propose. Ils n'ont plus envie de voter pour ces candidats-là. Donc, en fait, institutionnaliser le vote blanc revient à dire... on va voter pour ce en quoi on croit vraiment, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative, il n'y a rien, donc on va voter blanc. On va voter pour rien, parce que finalement, on ne sait pas. On veut voter parce que c'est un devoir civique.
Oui, mais c'est une façon de
croire à la République française.
Oui, c'est une façon de prendre en compte cette défiance.
Pas au candidat actuel, oui, mais ça revient à l'institutionnaliser. C'est comme si on faisait rentrer les gilets jaunes au Parlement, en gros. Tout le problème, c'est que les gilets jaunes ne veulent pas être représentatifs, on est d'accord. Ils ne veulent pas avoir un représentant. Ils ne veulent pas non plus forcément prendre une décision précise sur un sujet précis. C'est une revendication très générale, ce qui n'enlève rien à sa force, si vous voulez. Et du coup, si vous faites rentrer ça dans le schéma de la politique représentative, vous allez vous retrouver avec des gens qui... quelque chose qui n'a pas forcément de sens. Vous voyez ce que je veux dire ?
Expliquez-moi en quoi c'est une bombe à retardement, comme vous dites.
Parce que si vous la mettez officiellement comptabilisée dans les suffrages exprimés, quelqu'un comme Emmanuel Macron, au premier tour, il n'aura plus 24%, mais 18%. Et on va dire, le président de la République a été élu avec 18%. Donc vous avez...
Donc vous voulez dire que ça crée un problème de légitimité vis-à-vis seront élues, et en particulier du président de la République.
Ça tue ou ça diminue la légitimité de la démocratie représentative. Ça veut dire que vous dites, vous mettez en réalité la réalité. C'est-à-dire que vous dites, voilà, en fait, en vrai... le président, il n'aura été désigné que par 18% des Français. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'un Français sur 5...
Donc ça le délégitimise d'entrée.
Oui, ça enlève un peu plus de légitimité. Puis ça revient à dire qu'au fond, il y a une vraie question est-ce que, enfin, on introduit un verre dans le système en disant, est-ce que on a la bonne classe politique? Est-ce qu'on a le bon système politique? Enfin, ça bouleverse tout quand vous introduisez le vote blanc. Derrière cette revendication qui a l'air évidente parce que 80% des Français sont pour, au fond, il y a une vraie interrogation.
Ils ont envie d'être entendus, c'est tout.
Mais ils ont envie, oui, ils ont envie d'être entendus. Et puis surtout, ils ne croient plus à l'offre politique actuelle. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas d'autre. Enfin, je veux dire, si on avait un candidat brillant quelque part, on le verrait.
Donc pour vous, c'est quand même quelque chose de dangereux, la prise en compte du vote blanc dans les suffrages exprimés.
Pour moi, c'est la situation politique française actuelle et le fait qu'on ait 4 millions de blancs et de nuls aux dernières élections qui est dangereux.
Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue et président de MCBG Conseil. Autre enseignement de ce sondage BVA pour RTL et Orange, 40% des Français affirment ne pas avoir d'alternative à la voiture individuelle pour leur déplacement quotidien. Or, cette question a été le point de départ du mouvement des Gilets jaunes via le prix des carburants. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, était l'invité exceptionnel du grand jury RTL Le Figaro LCI hier et il s'en est pris à la méthode du gouvernement sur la transition énergétique.
Je pense que dans tout cela, il faut qu'on arrive à convaincre les Français, pas simplement en montant des taxes et pas en interdisant, par exemple dans le débat des chaudières à fioul, c'est pas leur disant il n'y en aura plus dans 5 ans ou elles seront interdites dans 10 ans. On peut leur démontrer qu'en passant avec des nouvelles technologies, soit de pompes à chaleur, soit de chaudières à gaz, soit de chaudières à bois, ils peuvent faire des économies réelles de l'ordre de 15 à 20% sur leur facture énergétique.
Hein, c'est-à-dire que l'avenir n'aura plus de chaudières d'ici.
Donc si on leur démontre qu'on peut faire des économies, ils vont acheter l'idée qu'on peut faire évoluer leur système.
Vous êtes en train de dénoncer une forme d'écologie punitive?
Je pense que profondément, l'écologie ne progresse. Côté des entreprises, que s'il y a quelque part, elle accompagne un mouvement économique et technologique, et côté des citoyens, que s'ils la comprennent. Mais d'ailleurs, sur le prix de l'énergie, c'est très vraiment typique. Les Français, ils nous disent quoi? Oui, on veut une énergie propre, mais il faut qu'elle soit pas chère. Et on ne pourra pas leur imposer une énergie plus chère au nom d'un sujet qui est majeur, enfin, qui est le sujet du climat, mais dont ils ne ressentent pas l'urgence, malgré tout, immédiatement.
Patrick Pouyanné qui dénonce donc l'écologie punitive. Dans un instant, quand les auto-écoles stoppent le trafic.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Les auto-écoles en opération escargot à Bordeaux, Marseille ou encore Paris, où une bonne partie du périphérique a été saturée ce matin. Les trois organisations de la profession dénoncent un projet de réforme visant à faire baisser le prix du permis. Ils dénoncent une ubérisation du métier. Quelle est la situation, Charlotte Baris?
Oui, il y a désormais des centaines d'auto-écoles à l'arrêt tout autour de la place d'Italie. Les manifestants se rejoignent après des départs ce matin depuis les portes d'Auteuil, de Vincennes, d'Orléans et de Bercy. Et certains automobilistes s'impatientent derrière les auto-écoles.
Ça fait une bonne 50 minutes à peu près.
Ras-le-bol, voilà.
Moniteurs d'auto-école, inspecteurs du permis de conduire viennent de toute la France pour protester contre le projet de réforme de leur profession. Bernard vient d'Auxerre et il ne cache pas son inquiétude.
Depuis un an, on fait partie d'une des professions qui accuse le plus de liquidation d'entreprises. Moi, ce que je crains, c'est qu'il y en ait beaucoup qui ferment, qu'il y ait plein de gens qui se retrouvent sur le carreau.
Les auto-écoles vont bloquer la place d'Italie une partie de la journée. Ils espèrent surtout être reçus par un membre du gouvernement.
Charlotte Baris sur le périphérique parisien. L'école obligatoire dès 3 ans, c'est la mesure phare de la réforme de l'éducation nationale qui arrive aujourd'hui devant les députés. Mais il y a aussi bien d'autres changements dans cette loi. Et dans RTL Mini, nous avons décidé de mettre l'accent sur une mesure, la possibilité donnée aux assistants d'éducation, autrement dit aux pions, d'enseigner, Marie Guerrier.
Oui, ça se fera progressivement à partir de la rentrée prochaine. Un étudiant qui se destine au métier d'enseignant signe un contrat de 3 ans avec l'éducation nationale. Il suit ses cours à l'université et en parallèle, il est donc assistant d'éducation, 8 heures par semaine, 2 demi-journées, dans un établissement scolaire. Il choisit une affectation, une école primaire ou le secondaire. Le contrat démarre lors de la deuxième année d'études universitaires, en L2. L'étudiant assistant d'éducation est alors en observation dans la classe. Il aide les élèves aux devoirs après les cours. L'année suivante, en L3, il peut co-intervenir en classe avec le prof. Et puis enfin, la troisième année qui correspond Master 1 à l'université, l'étudiant assistant d'éducation peut assurer 6 heures de cours seul en primaire, 8 heures en collège et lycée. À la fin de ces 3 années, il passe le concours d'enseignant. Durant toute la durée du contrat, il est rémunéré 693 € la première année, 963 la deuxième, 980 la troisième année et peut cumuler avec les bourses. On peut donc atteindre jusqu'à 1200 € par mois. Pendant toute la durée du contrat, l'assistant d'éducation est suivi par un prof tuteur qui touchera une indemnité. C'est donc de la pré-professionnalisation. Et pour l'instant, les étudiants seront sollicités dans les matières où l'on manque de profs, comme les maths ou l'anglais, et dans les académies où il manque tout particulièrement d'enseignants dans le primaire.
C'est un peu comme s'ils étaient en apprentissage en classe.
Exactement.
Finalement. Merci Marie. Le contrat du siècle, l'excellence à la française, s'exporte en Australie. Nos deux pays viennent de signer un partenariat pour la fabrication de 12 sous-marins destinés à la marine australienne. Un contrat à 35 milliards d'euros qui devrait permettre, Pierre-Julien, de créer aussi 500 emplois en France.
Oui, et précisons que sur ce montant, 8 milliards reviendront directement aux entreprises françaises. Il y a 3 ans, les Australiens ont choisi Naval Group, ex-DCNS, pour 12 sous-marins de type Barracuda, à propulsion classique, au grand dam du rival allemand Thyssen Group. Et Canberra avait en effet une autre ambition, assurer des liens très étroits avec la France. Déjà au niveau stratégique, l'Australie ne cache pas qu'elle s'inquiète, comme les autres pays de la zone, des velléités territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale. Et côté industriel et transfert de technologie, la construction du premier submersible commencera dans 4 ans pour une entrée en service en 2030, une vie opérationnelle de 40 à 50 ans. Et c'est la branche australienne de Naval Group qui sera chargée du chantier à Adélaïde. Les effectifs devraient être multipliés par 10 pour avoisiner les 3000 personnes. Et en France, à Cherbourg, le contrat occupera un demi-millier de techniciens et de spécialistes. Par ailleurs, le groupe américain Lockheed Martin installera le système de combat, mais le géant de l'électronique de Thales pourrait hériter des sonars. Ce succès français en appelle peut-être d'autres, notamment aux Pays-Bas, en Pologne, en Inde ou au Brésil.
La croissance devrait atteindre 0,4% au premier trimestre. Il s'agit d'une première estimation de la Banque de France qui correspond à peu près aux chiffres de prévision de l'INSEE. Elle explique ce léger rebond par une embellie dans le secteur du bâtiment et par l'amélioration des perspectives dans l'industrie et les services. Au-delà de cette limite, vos aliments ne sont plus valables. On parle des dates de péremption dans un instant. À part ça, bon appétit.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Les dates de péremption sont-elles dépassées? Différentes associations remettent leurs conclusions dans un livre blanc. Pour faire baisser le gaspillage alimentaire, elles proposent de retarder d'une journée la date limite de consommation de certains produits. De quoi réduire, disent-elles, le gaspillage de 170 tonnes par an. Nous sommes en ligne avec Bertrand Zwiderski, directeur du développement durable de Carrefour. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour que les choses soient bien claires, quelle est la différence entre la mention « à consommer jusqu'au » et « à consommer de préférence avant le » ?
Alors, « à consommer de préférence avant le », c'est ce qu'on appelle une date de durabilité minimale.
Oui.
C'est un indicateur en fait de qualité et on peut considérer qu'après cette date, le produit peut être un peu altéré en termes physiquement, de texture, etc. Vous voyez, par exemple, un yaourt peut rendre un peu plus d'eau au-delà de cette date-là.
D'accord. Et le à consommer jusqu'au ?
Alors, le à consommer jusqu'au, par contre, là, ce qu'on appelle la date limite de consommation, donc là, c'est un indicateur qui est sanitaire. Et donc là, le produit peut vraiment présenter des risques au-delà de cette date pour le consommateur.
Est-ce que vous avez vraiment l'impression, Monsieur Zwiderski, que les consommateurs s'y retrouvent ?
Non.
Je me sens moins seul.
Non, nous avons partagé avec les associations, hein, donc vous parlez de Too Good To Go ou France Nature Environnement, un constat, mais déjà depuis 2016, de cette complexité du consommateur à s'y repérer. Et puis le livre blanc pointe vraiment le fait que quasiment un quart des aliments, donc un quart des consommateurs, au-delà de cette date, se débarrassent des produits, n'ont pas confiance.
Oui, alors ils disent, il faut une proposition, ils disent sur la mention « à consommer de préférence avant », ils voudraient rajouter « mais aussi après ». Alors excusez-moi, mais j'ai l'impression que ça va être encore plus compliqué.
Ça va être compliqué. Alors sachez qu'en fait, nous avons testé auprès des consommateurs 3 mentions. Nous avons testé d'abord la date, donc avant le 13 mars, mais pas impérativement.
Oui.
Nous avons testé aussi parce que c'est meilleur avant.
Oui.
Et nous avons testé aussi pour une dégustation optimale.
Oui.
Et celui qui a satisfait le plus de consommateurs, c'était bien à consommer de préférence avant le 13 mars pour une dégustation optimale.
D'accord.
Mais vraiment, vraiment, le consommateur, lui, unanimement, vote le fait que nous devrions remplacer tout ça par « meilleur avant le ».
Oui, et comme ça, on sait. Mais « meilleur avant le », ça peut s'adresser à n'importe quel produit ou pas ? Par exemple, pour le lait, non ?
Mais non, c'est toujours la même chose. « Meilleur avant le », ce sera que pour les produits avec une date de durabilité minimale.
Voilà, donc par exemple, les pâtes ou...
Les pâtes, la confiture, etc.
D'accord.
Vous savez, il y a une autre action qu'on peut mener. Nous, sur le sel, sur le sucre, sur le vinaigre, nous avons même supprimé la date qui n'était pas obligatoire. Mmh. Donc aujourd'hui, vous avez un sel, vous pouvez le conserver, vous n'avez pas de date de durabilité minimale. Mmh. Et puis ce que l'on peut faire aussi, c'est que, et ce que l'on a fait nous sur 400 produits, notamment les yaourts, nous avons allongé la date limite de consommation de 7 à 10 jours.
Et oui, mais ça... alors les yaourts, on dit qu'on peut les consommer 4 semaines après.
Alors, en tout cas, nous, on a fait des tests hein, à J+1, J+2, ouais. J+3, et on s'est rendu compte qu'avec avec certains yaourts, si on allait jusqu'à plus 10 jours, eh ben on porte, ça, il n'y avait aucun risque pour le consommateur.
Bon.
Mais par contre, attention, il faut quand même se fier beaucoup à ses sens. Hein, donc c'est ce que rappelle Too Good To Go d'ailleurs, hein, que les sens du consommateur doivent être en éveil pour voir si le produit est consommable ou pas.
Mais dernière question rapidement. Ce livre blanc propose d'ajouter un jour supplémentaire sur la durée de vie des produits. C'est vraiment important, un jour ?
Un jour, en tout cas, c'est important pour nous pour avoir plus longtemps le produit en magasin, et c'est important pour le consommateur pour avoir plus longtemps le produit chez lui dans son réfrigérateur.
D'accord.
Mais on peut encore aller plus loin. Mais absolument, en faisant les tests nécessaires, à J+1, à J+2, à J+3.
Voilà, au cas par cas. Et vous nous avez donné l'exemple des yaourts. Merci beaucoup, merci Bertrand Zwiderski de nous avoir éclairé sur ce dossier un petit peu plus compliqué qu'il n'en a l'air. Merci beaucoup, bonne journée
merci
à vous.
Merci beaucoup.
Bad luck pour le PSG à la veille d'un rendez-vous crucial face à Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Il manque 3 pièces maîtresses aux Parisiens. Neymar et son métatarse, Cavani et son tendon, Meunier et sa commotion cérébrale. Philippe s'enfourche, les blessures sont régulières au sein de cette équipe, mais pas sûr que ce soit seulement de la poisse.
Oui, c'est une liste longue comme le bras qui hante les nuits des supporters parisiens depuis des années. Thiago Motta blessé face au Barça en 2013, Ibrahimovic l'année suivante contre Chelsea, Thiago Silva en 2015 encore contre le Barça, sans oublier Verratti, Pastore face à Manchester City, jusqu'à Neymar l'an passé pour le match retour face au Real Madrid. Les joueurs se succèdent, comme les entraîneurs et leur staff technique et médicaux. Rien n'y fait, le PSG collectionne les hécatombes de joueurs majeurs avant les grands rendez-vous européens. Une forme de fatalité que la poisse peut en partie expliquer, mais la pression mentale énorme au PSG sur cette compétition, au fil des années sans succès, peut aussi générer un stress particulier que le corps finit par ressentir. Une spirale infernale que les joueurs espèrent enrayer au mental face à Manchester, avec des vertus collectives qui font les grandes équipes capables de surmonter l'absence temporaire de leurs plus grands talents individuels.
Philippe s'enfourche. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans 10 minutes à peu près au 32-10. On peut reparler du PSG. Hein.
Oui, c'était le sujet de cette année ou de l'année dernière, ce que je viens d'entendre de Philippe s'enfourche. Et le sujet de l'année prochaine aussi. J'ai l'impression que.
L'importance du PSG, psy sur les blessures. Moi, je trouve ça super intéressant.
C'est les mêmes sujets pour le PSG.
C'est ça.
Dites-moi, votre dialogue avec Bertrand Zwiderski, directeur
du.
Voilà, il était à consommer de préférence avant 13h. Hein, parce qu'après la sieste, c'était un peu kafkaïen, c'était pas simple. Hein.
Mais non, mais c'est pas simple, c'est comme les mentions qu'on trouve sur nos aliments.
Bah, j'ai bien compris. En tout cas,
vous voulez dire que j'ai raté mon interview,
pas du
vous n'avez rien
mais
compris.
Pas du tout. Je suis sûr, parfois, après, avant, meilleur et tout ça. Bon, voilà.
Il faudrait que ce soit plus simple, en tout cas.
J'ai bien compris. Ben, on va poser la question aux auditeurs, figurez-vous. c'était très intéressant également, Philippe Moreau-Chevrolet, parce qu'on se rend compte des effets pervers du vote blanc, et ça, on les voit pas. Et lorsqu'il dit, à l'arrivée, si un président de la République est élu simplement par 20% des gens, ça peut poser un problème. On pourra réagir sur le vote blanc, sur François Berléand, sur le rugby, sur le Paris Saint-Germain si vous voulez, sur donc ces dates de limitation, dates limites de consommation.
À tout à l'heure. La météo, Patricia Charbonnier, les nuages se dissipent peu à peu.
Oui, très lentement. On a encore pas mal de résidus nuageux cet après-midi, en particulier entre les frontières de l'Est, le Massif central et du côté des Pyrénées. Quelques averses même de neige en montagne et toujours de fortes rafales de vent sur les Alpes et près de la Méditerranée. Par l'Ouest, là, c'est le début de l'amélioration avec le retour des éclaircies, des températures comprises cet après-midi entre 5 et 16 degrés, 5 à Besançon, 8 à Dunkerque, 9 degrés à Limoges, 10 degrés à Paris, 11 à Quimper et jusqu'à 16 degrés à Nice.
Et demain, l'extase.
Ah, ça va aller de mieux en mieux. Belle semaine anticyclonique avec de plus en plus de soleil. Encore du gris demain matin, des brouillards et des nuages bas qui pourraient localement persister dans l'après-midi entre le nord-est, le massif central et très localement le long de la Garonne. Sur l'ouest, ce sera de belles éclaircies dans l'après-midi. Plein soleil près de la Méditerranée et dans le sud-est. Des températures fraîches demain matin, moins 3 à 8 degrés. 6 à 17 dans l'après-midi, c'est la tendance pour la suite de la semaine. Un petit peu de grisaille le matin, des températures fraîches, quelques gelées. Et puis ensuite, du plein soleil et de la douceur dans l'après-midi. Très très belle semaine et même sans doute un très beau week-end.
Un rêve, vous revenez quand
vous m'aimez
voulez.
Là.
Oh, je vous adore. RTL. Il est 13h.
Le tout info des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous. Alerte sanitaire à la grippe, 12 000 passages aux urgences la semaine dernière, 1100 décès depuis le début de l'épidémie. Le pic est attendu dans 15 jours et le gouvernement rappelle aux Français les gestes pour enrayer le virus. Se moucher dans son coude, porter un masque si on est malade, se laver les mains régulièrement. Et un message aux personnes âgées et à la population fragile, il est encore temps de se faire vacciner. Le convoyeur de fonds se fait la belle avec une partie de la recette de son fourgon. La camionnette a été retrouvée en partie vidée dans une rue d'Aubervilliers en région parisienne. Raphaël Vantard.
Oui, tout s'est déroulé assez tôt ce matin, vers 6h exactement, en plein centre d'Aubervilliers. Les trois convoyeurs de fonds de la société Loomis viennent de prendre leur service. Ils s'arrêtent dans un commerce de transfert d'argent à l'étranger. Deux agents descendent du fourgon blindé. Le chauffeur, comme le veut la procédure, reste au volant, moteur tournant. Mais lorsque les deux convoyeurs sortent du magasin, le fourgon a disparu. Le véhicule est retrouvé par les policiers à une rue plus loin, devant un immeuble en construction. Le chauffeur s'est volatilisé, mais il reste des fonds dans le véhicule. Il manque 1 million d'euros. Le chauffeur du fourgon s'est-il fait la belle avec ce million d'euros? C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée désormais par la brigade de répression du banditisme qui est en charge de l'enquête. Le convoyeur de fonds est évidemment activement recherché.
Raphaël Vantard à Aubervilliers pour RTL. Trois amendes de 750 euros chacune seulement requises contre le directeur de l'abattoir municipal d'Alès. Les associations de défense des animaux se rebiffent. Cet homme est poursuivi après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de L214 qui a bouleverser l'opinion publique. On y voyait des bovins, des moutons saignés alors qu'ils avaient repris connaissance, des porcs entassés dans une cage avant d'être asphyxiés ou encore un cheval apeuré par un aiguillon électrique. Un policier depuis ce matin devant la cour d'assises de la Gironde poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Il avait abattu un forcené qui s'était jeté contre l'un de ses collègues. Il croyait que l'agresseur avait un couteau. Les faits se sont déroulés en août 2007, il y a 12 ans. Et depuis 12 ans, la justice s'interroge. Légitime défense, non-lieu, recours de la cour de cassation. Aujourd'hui, Philippe de Maria, vous assistez à ce procès de l'usage légitime ou non de la force par les policiers.
Exactement, et le policier accusé est très bien noté. Il a même un jour sauvé de la noyade un cambrioleur qu'il poursuivait. À la barre aujourd'hui dans une veste grise, il explique son parcours sans faute jusqu'à cette nuit de 2007 à Poitiers. Un forcené, Olivier Massonneau, détruit littéralement son appartement. Il frappe sa compagne, ses enfants. Il menace les policiers et il exhibe même un couteau ensanglanté. Quand enfin les fonctionnaires le localisent, il se jette sur eux. Chauveau tire et le blesse mortellement. Son avocat, Maître Liénard.
On est en train de juger 2 secondes de la vie d'un homme. Et 2 secondes au cours de laquelle il a dû prendre une décision de tuer pour que son collègue ne soit pas tué.
Mais pour la famille de la victime, la légitime défense n'est pas constituée. Maître Maisonneuve.
On sait aujourd'hui que monsieur Olivier Massonneau n'a pas d'armes sur lui. Et par voie de conséquence, les conditions de légitime défense ne sont pas réunies.
Et pour violence volontaire ayant entraîné la mort, le policier risque jusqu'à 20 ans de prison.
Philippe de Maria à Bordeaux pour RTL. Deux journalistes de Libération mis à pied à titre conservatoire. Leurs noms apparaissent dans une affaire de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux qui a éclaté ce week-end. On a appris l'existence sur Facebook d'un groupe privé baptisé Ligue du LOL contenant des journalistes, des communicants. Plusieurs de ses membres se sont excusés. Y a-t-il un assouplissement en vue sur le glyphosate? Cet herbicide devrait être en principe interdit en France dans 3 ans, mais cette interdiction ne sera pas totale. C'est ce qu'a expliqué ce matin Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture sur RTL.
Le président de la République a souhaité que la France soit leader en Europe sur la baisse des phytosanitaires. Et donc il a annoncé 3 ans. Donc dans 3 ans en France, 80% en gros d'utilisation des produits de glyphosate sera terminée. Mais il va peut-être rester 20% pour lesquels nous n'avons pas de solution. C'est la raison pour laquelle il ne fallait pas mettre cela dans la loi. Parce que nous aurions mis cela dans la loi, ça veut dire que dans 2 ans, on avait des filières qui n'avaient aucune solution.
Didier Guillaume avec Elisabeth Martichou. C'est l'heure de notre point quotidien à la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
La Bourse de Paris qui démarre la semaine du bon pied. Et oui, le CAC retrouve quasiment les 5000 points après un gain de 0,76% dans le siège des marchés chinois porté par l'espoir d'avancer dans les discussions commerciales avec les États-Unis. Et oui, le marché spécule sur une prochaine rencontre entre Donald Trump et le numéro 1 chinois, Xi Jinping, autour du 15 mars, c'est-à-dire après la date butoir de fin des négociations. La rencontre pourrait avoir lieu soit en Floride, dans la résidence du président américain, soit à Pékin. Rien n'est encore décidé et tout peut encore changer d'une minute à l'autre. Alors si un accord entre les deux puissances était trouvé, et c'est ce que le marché spécule en ce moment, eh bien ce serait une excellente nouvelle sur le front de la croissance mondiale. Et ce sont donc les entreprises les plus sensibles à la conjoncture qui en profiteront. Elles sont recherchées en bourse aujourd'hui. Capgemini, ST Micro ont pris la tête du CAC 40 avec des gains de plus de 2% hors de l'indice. Les cycliques mènent la danse. Manitou par exemple, plus 5%.
Merci Sylvie, Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Une pause et dans un instant, vous nous appelez au 3210. Vous discutez avec Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole.
Vous écoutez RTL.